Deutsche Welle Magazine Santé.
The 2016 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Yoshinori Usumi.
Le 3 octobre, le japonais Yoshinori Usumi a reçu le prix Nobel de médecine pour ses travaux de recherche fondamentale sur l'autophagie. L'autophagie, vous n'en aviez jamais entendu parler? Eh bien, nous allons le faire tout de suite dans ce magazine santé. Et puis nous irons à Dakar, au Sénégal, 2 mois après l'instauration de la loi qui interdit le tabac dans les lieux publics. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. C'est Audrey Parmentier au micro. L'autophagie, Patrice Codogno s'y intéresse de près. Il est directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Il anime une équipe de recherche au sein de l'Institut Necker Enfants Malades à Paris. L'autophagie, cela signifie littéralement « se manger soi-même », mais je vous rassure, rien à voir avec le cannibalisme, comme nous le confirme Patrice Codogno.
L'autophagie, c'est une des fonctions fondamentales de la cellule eucaryote, c'est-à-dire des cellules qui possèdent un noyau, grosso modo des cellules de levure jusqu'aux cellules dans l'organisme humain. Quand je dis fondamental, c'est-à-dire comme la propriété de se diviser, la propriété de se différencier. Alors s'autodigérer, ça peut paraître quelque chose de très dangereux pour la cellule, et finalement, c'est dans un grand nombre de cas une fonction de protection de la cellule et de réponse au stress. C'est au-delà de la cellule, une protection de l'organe et de l'organisme.
C'est un processus, vous venez de dire, d'autodigestion. C'est-à-dire que la cellule s'autodigère.
S'autodigère, partiellement. Par exemple, en période de carence nutritionnelle, puisque les cellules doivent recevoir des briques pour survivre du milieu extérieur, s'il n'y a pas ces briques dans le milieu extérieur, ces nutriments, ces protéines, ces glucides, ces acides gras, finalement la cellule va utiliser ses propres ressources en autodigérant une partie de son matériel. Et toute la finesse du mécanisme, c'est de s'autodigérer pour survivre. Bien sûr, si on peut le faire en laboratoire, il y a quelques cas extrêmes dans la nature, en physiopathologie, où si la cellule, bien sûr, pousse trop loin ce mécanisme, elle meurt, simplement, parce qu'elle s'autodigère totalement. Mais dans la majorité des cas, c'est un mécanisme de protection de la cellule.
Mais donc, vous dites que c'est un mécanisme, donc, a priori positif. Mais vous soulignez quand même, dans un grand nombre de cas. Alors, est-ce que ça veut dire que dans un autre nombre de cas, ça a des conséquences négatives?
Oui, alors ça, c'est toujours un grand débat dans le milieu, dans l'autophagie. Il y a un autre mécanisme qui s'appelle la mort cellulaire ou l'apoptose, qui d'ailleurs a reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine il y a quelques années, qui lui est un mécanisme de mort cellulaire, qui induit la mort cellulaire. Et cette mort cellulaire peut être bénéfique au cours du développement parce que certaines cellules doivent être éliminées. Par contre, lorsqu'il est inhibé, comme dans le cas du cancer, c'est plutôt quelque chose de défavorable à l'organisme. Dans le cas de l'autophagie, on s'est interrogé pendant de nombreuses années savoir si cette autophagie pouvait être un mécanisme de mort. Alors ça a été montré dans un certain nombre d'organismes que j'appellerais inférieur, mais chez l'homme, il y a très peu d'exemples finalement, mais on commence à en avoir, notamment en physiopathologie, c'est-à-dire dans certaines maladies, où l'autophagie pourrait être une composante de cette mort cellulaire. Mais encore une fois, dans la majorité des situations, c'est un mécanisme vraiment de protection. Alors, de protection en réponse à certains stress, ou de protection aussi, parce que c'est un mécanisme de ménage, c'est-à-dire qu'élimine toutes les composés un peu nocifs qui peuvent s'accumuler dans une cellule.
D'accord, donc quand je vous entends, je me dis qu'avec ce mécanisme-là, on pourrait ne jamais être malade et rester jeune tout le temps. Comme malheureusement ce n'était pas le cas, j'en conclus que ce mécanisme, il diminue peut-être, ou il change avec l'âge?
Effectivement, l'autophagie diminue avec l'âge. dans nombreux modèles animaux, proches de nous, la souris notamment, et même lorsqu'il y a eu des études faites post-mortem sur des cerveaux de sujets plus ou moins âgés, effectivement, les molécules qui contrôlent ce mécanisme déclinent avec l'âge. Et il y a des expériences qui sont faites sur des modèles, bien sûr, expérimentaux, notamment chez la souris, où restaurer ce mécanisme contribue finalement à allonger la vie. Et allonger la vie est une chose, mais ce qui est plus important, c'est allonger la vie, j'ai envie de dire, en bonne santé. Alors, ça contribue, c'est certainement pas le seul mécanisme, mais c'est un des aspects intéressants des recherches actuelles, c'est la relation entre autophagie et longévité.
Et donc, est-ce qu'il y aurait des moyens, l'alimentation ou un certain mode de vie, pour justement faire en sorte que ce mécanisme continue à bien fonctionner ?
Alors, il y a, encore une fois, je me retranche toujours derrière les modèles animaux, il y a des interventions nutritionnelles, effectivement, comme ce que l'on appelle la restriction calorique, c'est-à-dire réduire finalement la prise alimentaire, bien sûr dans des conditions de confort de vie, enfin pour l'animal, et qui stimule ce mécanisme et finalement ont des effets bénéfiques sur la vie, la longévité des animaux. Donc, effectivement, c'est une piste intéressante.
Une piste à explorer, donc. Et si l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska a remis le prix de médecine 2016 à Yoshinori Usumi, c'est parce qu'il a largement contribué à faire connaître le processus d'autophagie, comme l'explique Volker Hauke, directeur de l'Institut Leibniz de pharmacologie moléculaire.
Quand on regarde les publications, on se rend compte qu'au début, il n'y en avait que très peu sur ce sujet. C'est seulement quand Yoshinori Usumi a débuté ses travaux que l'on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un domaine essentiel. Désormais, des milliers d'articles consacrés à l'autophagie paraissent chaque année. C'est un bel exemple du fait qu'une seule personne ou un seul laboratoire peut ouvrir la voie à un domaine de recherche complètement nouveau.
Le Japon et les États-Unis sont en tête en ce qui concerne les recherches dans ce domaine, mais un réseau européen de l'autophagie est en train de se constituer. C'était le 11 août dernier, une loi anti-tabac entrée en vigueur au Sénégal. Depuis, le tabac dans les lieux publics est interdit et la vente de cigarettes aux mineurs prohibée. Des espaces fumeurs et non-fumeurs ont été aménagés et des centres de sevrage sont en face d'installations. Le reportage à Dakar de notre correspondant Mamadou Lamineba.
À la place de l'Indépendance, au centre-ville de Dakar, le restaurant La Pampa grouille de monde ce matin. Une bonne odeur de café embaume l'air. Les clients attablés prennent leur petit déjeuner dans une bonne ambiance. Ici, pas une odeur de cigarette dans l'air. Mohamed Youssef, gestionnaire de l'établissement, a réaménagé son espace pour satisfaire sa clientèle.
Tout ce qui est fermé en salle, il est interdit de fumer. On a une terrasse, mais on a une pergola qui s'ouvre électriquement. Donc les gens s'assoient dehors et peuvent fumer sur la terrasse ouverte. On a les deux clients, c'est-à-dire les gens qui ne fument pas, qui restent à l'intérieur. Celui qui a envie de fumer, donc il va à la terrasse.
Sur l'avenue William Ponty, il est midi au restaurant La Gondole. Le chef de salon, Maxime Sagnan, prend les commandes de ses clients et vérifie qu'ils sont bien servis. Ici, on respecte strictement la mesure interdisant la cigarette dans les lieux publics. L'État a prévu des amendes en cas de non-respect de la loi pour les établissements publics. Une mesure dissuasive qui fait déjà ses effets. Maxime Sagnon ne veut pas résister.
Il paraît qu'il y a 150 000 pour l'entreprise. La personne qui fume, elle a une amende de 10 000 francs ou tout ça. Moi, je préfère qu'on arrête la cigarette. Il n'y a plus de cendrier chez moi. Je les raye. Des fois, il y a des gens qui sont asthmatiques et tout ça. Ils sont obligés de sortir.
Un changement qu'approuvent certains clients. Moussa Sen, assis à côté de son ami au restaurant La Gondole, prend tranquillement son jus de fruits.
Bon, c'est bien parce qu'au moins, on met à l'aise le non-fumeur. Bon, cela lui permet, comme je suis là avec une amie, de rester, de pouvoir discuter aussi longtemps qu'il faudra. Donc, il n'y a pas d'élément perturbateur qui peut nous gêner et qui pourrait quand même précipiter notre sortie.
L'État a lancé un programme national de lutte anti-tabac. Il sera décentralisé avec des comités régionaux pour harmoniser les activités. les propriétaires de restaurants, bars, hôtels et autres lieux publics seront formés pour faire respecter la loi. Des centres de sevrage sont en phase d'installation dans certains hôpitaux. Objectif, prendre en charge les grands fumeurs qui ne peuvent pas arrêter brusquement. Mais déjà, une structure de traitement existe au centre hospitalier universitaire de Fan, le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar. Ouvert en décembre 2014, ce centre accueille et traite des personnes souffrant de toutes sortes d'addictions. Tabagisme, alcoolisme et drogués durs. Pour le tabac, certains patients étaient d'une dépendance chronique. Cet ancien grand fumeur que nous avons rencontré à quelques dizaines de mètres du centre nous explique son cas.
Il y a les consultations, la prise en charge, le suivi. Je fume très peu maintenant. Je promets que je vais arrêter. J'ai vu que ma santé, ça va mieux quoi. La cigarette, ce n'est pas bon. Oui, il faut arrêter.
Au Sénégal, 6% de la population fume, selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, publié en mars 2016. Mamadou Lamine Ba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Et nous suivrons avec attention l'ouverture de ces centres de sevrage à Dakar, au Sénégal. Et si vous, également, dans vos pays respectifs, il y a des centres de sevrage qui se mettent en place, ou bien des mesures anti-tabac qui sont en train de se développer, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part, notamment sur notre page Facebook. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Patrice Codogno de l'INSERM pour l'interview. Vous pouvez réécouter ce magazine en podcast sur notre site internet dw.com/français. La semaine prochaine, nous parlerons des prothèses développées à partir des imprimantes en 3D. D'ici là, portez-vous bien.